série. Bienvenue dans Sérivore. Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un céréal lover
ou un cereal eaters.
Bonjour les Sérivores, nous allons aujourd'hui vous parler de la série Vidocq, une série télévisée française en noir et blanc au départ, créée par Georges Neveu, le scénariste et dialoguiste, et Marcel Blouval, qui sera aussi le réalisateur de cette série avec Claude Lourcet. Et sa suite, Les Nouvelles Aventures de Vidocq, une série télévisée française qui, elle, sera plutôt en couleur. Et cette série est considérée comme l'un des plus beaux fleurons de la télé française. Sachant que, comme on le verra dans les anecdotes, j'ai mis les deux séries ensemble parce qu'en fait, elles sont liées et vous apprendrez pourquoi. Tu peux nous parler de cette série, David ?
Oui, c'est une série qui a été réalisée des années 1967 jusqu'à 1971 et même jusqu'à 1973.
Oui, en effet, comme je l'expliquais, il y a eu une coupure et on l'expliquera plus tard.
Alors, c'est une série qu'on pourrait classer comme aventure historique. Et la série originale est donc composée de une saison, soit 13 épisodes de 25 minutes, et une autre saison de 13 épisodes de 55 minutes pour les nouvelles aventures de Vidocq.
Alors, cette série est inspirée des mémoires de Eugène François Vidocq, un personnage qui a vraiment existé, et qui met en scène ses aventures comme ancien bagnard, devenu policier au début du 19e siècle, sous le règne de Napoléon et de son premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Fouché. Dans la série Des Nouvelles Aventures, Vidocq se heurte à une ravissante baronne qui est une redoutable chef de bande, et les affaires confiées à Vidocq ne sont pas seulement à ce moment-là des affaires policières, mais également des affaires délicates, des affaires politiques, voire diplomatiques. Quoi de mieux que d'écouter le premier générique de la saison qui est signé
Serge Gainsbourg.
Et ouais, la chanson du Forçat. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on mettra deux génériques. On va mettre d'abord le générique de la saison 1, et puis plus tard, on mettra celui de la saison 2.
Oh, 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 qui ne s'est jamais laissé enchaîner. Jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé. Oh, 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 faut-il pour voir un jour un ciel tout bleu? Un ciel noir trois jours sur deux. Je l'ai supporté, je suis un évadé. Oh, faut-il vraiment se laisser emprisonner? Moi je le connais, je suis un évadé. Oh, est-il nécessaire de perdre la vue? Oh, pour espérer les soleils disparus. Je suis un évadé. Oh, 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 qui ne s'est jamais laissé enchaîner. Oh, oh, on ne saura jamais ce qu'est la liberté. Je le sais, je suis un évadé.
Alors, les héros principaux et les acteurs qui les interprètent, eh bien, pour la première saison, c'est Bernard Noël qui s'y collera dans le rôle de François Vidocq, et puis dans la seconde, quelqu'un qui vous connaissez beaucoup plus, hein, Claude Brasseur, dans les nouvelles aventures de Vidocq. Et Claude Brasseur, bien sûr, bah, c'est le papa de Vic dans la série de films La Boum, et puis bah, toute la carrière hein, qu'on connaît jusqu'à Camping récemment, hein, pour les plus jeunes. Mais voilà, c'est vraiment... quelqu'un qui est sorti d'une grande famille d'acteurs, et donc c'est lui qui reprendra d'ailleurs avec talent le flambeau, sachant que les deux acteurs ont vraiment été c'est un peu ce qu'a lancé leur carrière aux deux acteurs cette série Vidocq. En face de lui ou à côté, il y a Geneviève Fontanelle qui jouera Annette dans la première série, Alain Motet qui jouera l'inspecteur Flambard dans la première série, puis Marc Daudicourt dans les nouvelles aventures. À noter Jacques Seller, rien que le jeu de mots me fait rire, et bien il joue Henri Desfossés, et alors lui on le voit dans les deux. Dans les deux séries, il joue le même personnage, donc c'est assez sympa. Ensuite, tu peux nous parler du directeur de la prison ?
Oui, il y a Jacques Monod qui joue donc le directeur de la prison. Il y a aussi Pierre Pernet qui joue l'acrobate, mais seulement dans l'épisode 1, et puis dans les nouvelles aventures aussi. Il y a aussi Pierre Tornade qui joue une tornade. Non, qui joue Gontran Tornifon.
Voilà, Pierre Tornade, c'est lui qui faisait la voix d'Obélix dans tous les dessins animés.
D'accord.
Et puis, c'est un superbe acteur et doubleur.
Il y a aussi Daniel Lebrun, qui joue la baronne Roxane de Saint-Gély, sauf durant l'épisode 4 et aussi dans les nouvelles aventures.
On trouve Robert Parti, je vous parlais de Fouché, le ministre de l'Intérieur de l'époque, et bien, on le voit dans les nouvelles aventures, dans les épisodes 1, 6, 7, 8 et 9, donc pas mal d'épisodes. Et puis Henri Poirier, qui joue Savary qui succédera à Fouché, hein, puisqu'il avait été viré par Napoléon, et dans les épisodes 1, 5 et 8 des aventures, donc c'est assez sympa de voir des personnages réels, mais joués par des acteurs. Alors les anecdotes, il y en a un petit paquet. Alors la série était ainsi présentée dans l'édition de Gallimard de 73. S'évader du bagne, se retrouver chef de la sûreté, accepter des missions policières et politiques de plus en plus importantes, mais se savoir menacé chaque jour d'être remis au fer en cas d'échec, telle est l'incroyable et pourtant véridique histoire de Vidocq. Ce géant hâbleur et génial s'est volontairement enveloppé d'un halo de légende, ce qui a permis à Georges Neveu d'écrire ses nouvelles aventures et à Marcel Bouval de les réaliser à la télévision avec beaucoup de succès. Si on projetait un jour et à la file les 26 épisodes, les 13 épisodes de Vidocq et les 13 épisodes des nouvelles aventures de Vidocq, la projection complète durerait 19 heures. On s'apercevrait que l'auteur s'est ingénié à suivre la succession des événements et que l'arrière-plan de ces ensembles forme une espèce de frex exact et vraiment continu de l'histoire française entre 1792 et 1825. Donc c'est une série, si vous voulez voir ce qui se passait à l'époque, c'est vraiment intéressant parce que ça a été finalement fait, même si ça a un peu vieilli par les images, mais par contre le contenu est toujours aussi intéressant.
Le générique de la première série est la chanson de Serge Gainsbourg, chanson du Forçat, comme on l'a dit tout à l'heure. Après Serge Gainsbourg, la musique du générique a été composée par Jacques Loussier, l'auteur de celle de Thierry Lafronde.
Thierry Lafronde, dont on avait parlé...
Voilà, petit rappel.
On voit que David avait bien suivi l'émission, il est encore dedans. Alors, les nouvelles aventures de Vidocq est la deuxième série autour du personnage, puisque Bernard Noël en avait été la vedette au départ, jusqu'en 67, et l'acteur n'a pas pu tourner la suite des aventures de Vidocq pour des raisons de santé, et il est même décédé par la suite. Il a donc été remplacé au pied levé par Claude Brasseur, et à cette occasion, le casting a été renouvelé, de même que le rythme de la série a été un petit peu accéléré, en même temps que ça durait, puisqu'on passe de 25 à 30 minutes à pratiquement une heure. Et le ton des nouvelles aventures de Vidocq se voulait un peu plus léger, un peu plus d'humour, moins historico-sérieux.
Dans les nouvelles aventures de Vidocq, Claude Brasseur, alors âgé de 34 ans, reprend donc le flambeau de Bernard Noël. Après plusieurs années sur les planches de théâtre et quelques petits rôles au cinéma, c'est à la télévision donc que l'acteur français se fait un nom auprès des spectateurs. Déjà remarqué sous les traits du reporter donc Roule Tabille dans le téléfilm Le Mystère de la Chambre Jaune, Claude Brasseur incarne ici un Vidocq charmeur. Grâce à ce rôle, il obtient aussi une impressionnante notoriété auprès du public qui sera renforcée donc les années suivantes par des rôles cultes au cinéma. Et puis, En décembre 2020, l'acteur tant apprécié des Français décède donc à l'âge de 84 ans.
Et oui, il nous a quittés il y a très peu de temps. Donc ce Vidocq, je l'ai choisi aussi un petit peu en hommage à Claude Brasseur parce que c'est quelqu'un qui a marqué les séries françaises et le cinéma français. Alors, les aventures de Vidocq accueillent également une pléiade de personnalités au fil des 13 épisodes, dont Jacques François, bien connu pour ses rôles de président dans les films français, Pierre Tornade, on en a parlé tout à l'heure, Marie-Pierre Cazé, Hubert Deschamps, André Falcon et Patrick Préjean, sans oublier une apparition de Marcel Bluval himself à l'écran. Bon, il a fait ça un petit peu à la Hitchcock, hein. En tant que réalisateur, il s'est permis d'être au casting.
Alors que la série rencontre un franc succès donc à la télévision française, elle prend fin à l'issue de sa deuxième saison en 1973, seulement donc 2 ans après son lancement. Une décision qui peut surprendre, mais pourtant volontaire de la part du réalisateur Marcel Bluval, comme du reste de l'équipe. Alors que le cinéaste ne voulait pas vivre dans Vidocq jusqu'à la fin de sa vie, Claude Brasseur tenait lui aussi à s'éloigner du personnage pour la suite de sa carrière. Danielle Lambrin avait, quant à elle, d'ores et déjà beaucoup de projets au théâtre.
Voilà, c'est pour ça que des fois, on voit que c'est pas mal de s'arrêter en pleine gloire. Hein.
C'est mieux que de faire durer et que ça fasse flop.
Alors, un endroit qui est très célèbre pour les fans de Vidocq, c'est le numéro 13 de la Galerie Vivienne, qui cache un escalier. Et c'est là qu'a habité l'extraordinaire Vidocq vers 1840. Donc, Vidocq, Jeanne François de son petit nom, était un ex-forçat évadé du bagne. Et ce colosse au grand cœur, aventurier dans l'âme, devient le flic le plus célèbre de France et le fondateur de la première agence de détectives privés du monde. Donc, une fois de plus, les Français, on est en avance, un petit cocorico. La légende dit qu'un souterrain reliait la Galerie Vivienne au jardin du Palais Royal. Ça, c'était plus facile pour aller directement prendre des renseignements. C'est par là qu'il se fait la malle en cas de danger. Et oui, Vidocq risque sans arrêt des représailles de la part de ses collègues qui haïssent ses petits copains, tous anciens malfrats reconvertis de toutes leurs tripes, puisqu'en fait, oui, il avait embauché toute sa pègre, tous ses potes, c'est eux qui étaient ses lieutenants. Donc vous imaginez, ils étaient passés de l'autre côté de la barrière, donc ça plaisait pas forcément aux truands.
Terrible erreur de jeunesse qui l'envoie au trou marqué au fer rouge. Promis, il changera radicalement de vie. Et oui, Eugène François Vidocq naît à Arras en 1770. Papa est boulanger, le petit Gégène a 16 ans quand il vole ses parents. Chassé à coups de pied dans le cul, il file en Belgique. Son rêve, partir pour l'Amérique. Mais il se fait voler son argent et se retrouve chez des forains, obligé de gagner sa vie en soignant la ménagerie. Récurer le poil des chevaux, pas pour lui. Sa vie misérable de révolte. Vidocq s'engage alors dans les armées révolutionnaires, combat à Valmy, puis déserte. Il se fait escroc entre le Nord et Paris, jusqu'à ce qu'on l'arrête pour le condamner en 1796 à 8 ans de bagne pour falsification de papier. Il s'évade plusieurs fois, se fait reprendre à chaque fois, jusqu'à la bonne en 1800. Enfin libre, Vidocq a 25 ans, et il a déjà vécu une première vie, voleur volé, soldat déserteur et puis forain.
Vidocq a inspiré le personnage de Jean Valjean à Victor Hugo pour Les Misérables. Et par la suite de sa vie, il sort du bagne de Toulon, Vidocq file à Paris et propose ses services à la police de la Sûreté, l'ancêtre de l'actuel Quai des Orfèvres. On l'embauche comme agent secret au départ. Et en tant qu'ancien bagnard, il peut facilement infiltrer le milieu. Vous imaginez le chef de la Sûreté dans Paris, vicieux du 19e siècle. Sauf que Vidocq est entouré par des collègues venus de la pègre, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc leurs méthodes se font un petit peu tâche. Ils se déguisent, trompent leur monde, achètent les dénonciations. Les ragots parlent de méthodes plutôt un peu brutales et peu légales qui vont choquer et provoquent la jalousie des policiers traditionnels aux méthodes beaucoup plus conventionnelles. Mais lui et son équipe disent « Bah oui, mais nous, on arrête 3 fois plus de bandits que vous avant. » Et donc, on finit par le démettre de ses fonctions. Et puis, il va être viré, tout simplement.
En 1933, après sa carrière à la Sûreté, Vidocq donc fonde le bureau des renseignements dans l'intérêt du commerce, rue Cloche-Perce, dans Paris, 2e arrondissement, moyennant finances. Les commerçants disposent donc d'un service de renseignement économique et même d'infos sur des infidélités de leurs conjoints.
Donc, il était déjà, précurseur de ce qu'allaient devenir les détectives privés, les agences de détectives privés. Hein. On croit toujours que c'est les Américains qui ont avancé ça, mais non. C'est bien un de nos personnages historiques français qui avait déjà la bosse du commerce, on pourrait dire. Alors, Vidocq a publié deux livres, Les voleurs et ses mémoires, qui populariseraient l'argot utilisant, à l'époque, la pègre utilisait une espèce de l'argot des rues. Un argot qui est d'ailleurs utilisé encore aujourd'hui, comme le daron pour le père ou les crocs pour les dents. Et être de mèche, ça donne un truc incompréhensible pour les non-initiés. Ce bouquin est vraiment un recueil pour apprendre l'argot.
Vidocq présentait dans son générique ce qui allait se passer dans l'épisode par le biais d'un montage rapide alternant plusieurs séquences à venir, tout comme le faisait Mannix en 1967, la série du détective privé avec Mike Connors, et même avant avec Mission Impossible.
Ouais, donc vous voyez que c'est pour les montages, les Français n'avaient rien à envier aux séries à l'époque, puisqu'on faisait aussi des choses avec des techniques un petit peu nouvelles. Mario David, qu'on peut voir souvent dans de nombreux films des années 60 et 70, son second rôle, joue ici un espèce de gendarme un peu béné.
Si l'interprétation de Claude Brasseur du personnage de Vidocq a marqué les esprits des spectateurs, le fameux ex-bagnard devenu policier a connu de nombreux visages à la télévision comme au cinéma. Il y a eu Harry Bohr, qui fut la première apparition du héros à l'écran en 1909.
Assassin's Creed Unity, le fameux jeu sur vidéo, le héros rencontre le jeune Vidocq durant la Révolution française. Vidocq lui propose de résoudre des meurtres un peu partout dans Paris qui prennent la forme d'une série de quêtes annexes.
En 2010, Vidocq, le masque et la plume, téléfilm de Alain Chocard, fut tourné sur un scénario de Hervé Corian. Il s'agissait donc du pilote d'une série télévisée qui ne sera pas concrétisée. Bruno Madinier a repris le rôle sur TF1 le temps d'un épisode. Malgré son succès, environ 6,36 millions de curieux qui étaient au rendez-vous, soit 25,3% du public, la chaîne n'a pas donné suite.
Comme quoi, on voit comme d'habitude, on n'a rien à foutre du spectateur. Hein, comme d'habitude, c'est le business qui passe. Chloé va nous passer un extrait de la série.
Allez, enfoiré, vite.
Dis donc, il a sonné, le poule du...
Allez, vite. Hop. Hey. Hop.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Des clients. Trois bons bourgeois qui viennent faire réparer leur chaîne de pompe.
Avec monsieur qui voulait nous empêcher de venir chez toi.
Alors le plus, c'est les originalités de la série. Eh bien, j'ai mis un personnage historique au destin extraordinaire, hein, comme on a pu le voir dans les anecdotes. C'est vraiment quelqu'un qui a un peu changé et chamboulé un peu toutes les méthodes de la police traditionnelle. Et de plus, de voir que quelqu'un partir vraiment du caniveau, c'est le moment de le dire, un forçat qui devient chef de la police. On remarque, maintenant, ça change pas trop, hein, quand on voit certains ministres avec leur passé un petit peu houleux.
Oui, c'est vrai, c'est
hein,
pas vrai.
Je ne donne pas de nom, l'aura reconnu. Hein, et voilà.
On les aura reconnus,
on peut dire oui, parce qu'il y en a beaucoup. Donc vous voyez, rien n'a changé, hein, la voyoucratie sera toujours là. Ensuite, eh bien, bah, des bons acteurs pour interpréter Vidocq, hein, on a vu que ça lançait leur carrière, malheureusement, eh bien, on a vu que le premier interprète
est décédé.
N'aurait peut-être percé beaucoup plus, mais bon, heureusement, Claude Brasseur a repris le flambeau et a eu la carrière qu'on connaît derrière. Puis j'ai mis des génériques originaux, hein, vous avez entendu le premier, vous allez entendre le deuxième, vous allez voir qu'on a vraiment un travail. Puis bon, c'était quand même la chanson que j'adore, hein, ce qu'on a entendu tout à l'heure, la chanson du Forçat. Elle est vraiment, vraiment sympa et elle est toujours d'actualité. Les paroles sont travaillées, la musique est travaillée. Enfin, du bon travail de Gainsbourg. Les moins de la série, ce que j'ai mis moi, c'est le côté un peu désuet de la série de 67 en noir et blanc. Comme je disais, la qualité de l'image, j'ai eu l'occasion de le regarder. C'est intéressant, l'histoire est intéressante, mais bon, c'est vrai que... Ou alors, faudrait vraiment... Moi, j'ai en version non restaurée, mais l'histoire est toujours sympathique de voir ces forçats et de C'est une petite page de l'histoire de France qui est un peu plus ou moins oubliée, donc c'est bien de temps en temps de regarder. Mais bah, j'ai mis quelques libertés prises avec la réalité historique, surtout dans la deuxième partie avec Claude Brasseur, où on a voulu mettre un peu plus de légèreté, de romance. Donc on a mélangé des faits réels, hein, on voit Talleyrand, on voit Fouché, enfin Napoléon qu'on entrevoit de temps en temps, et voilà, on voit un petit peu que bah, c'était pas une époque, forcément tous les moyens étaient bons, hein, c'est ce que je dis, on
en... Talleyrand qui était pas loin en plus. Hein.
Oui, à Valençay. Oui. Mais bon, le fameux Napoléon l'avait surnommé la merde dans un bas de soie parce que c'était vraiment quelqu'un qui... Un vrai diplomate, un vrai serpent. Hein. Il retournait rapidement sa veste. Un coup, il était avec Napoléon, après avec Louis XVIII, après quand ça revenait. Voilà, c'était quelqu'un, bah, vraiment un diplomate dans toute sa splendeur. Et puis, bah, j'ai mis les génériques. Oui, c'était ce que je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment ce qui a amené un petit peu à faire connaître cette série d'entrée, on voyait ça allait se passer. Donc c'était vraiment sympa. Et bien ce que je propose à Chloé, bah, c'est de nous passer un petit bonus avec le générique de la saison 2, Les Nouvelles Aventures de Vidocq. Donc, si vous avez aimé, j'ai mis Scandale à Paris, Scandale in Paris, c'est un film américain réalisé par Douglas Sirk en 1946, donc tu as parlé tout à l'heure. En 2001, on aura le droit à un Vidocq avec Gérard Depardieu et Guillaume Canet. Voilà pourquoi je me suis trompé. J'ai cité parce que son fils s'appelle aussi Guillaume. Mais bon, donc là, c'est le côté plus fantastique. Hein. On a voulu mettre un petit peu plus de fantastique dans le personnage de Vidocq et c'est plus ou moins réussi. L'Empereur de Paris en 2018 avec Vincent Cassel qui, là, est beaucoup plus fidèle au personnage de Vidocq que l'on voyait dans la série. Ensuite, eh bien, je vous propose le Vidocq, Le Masque et la Plume dont David nous a parlé, le téléfilm, qui malheureusement aurait pu être une série, mais qu'on a du mal d'ailleurs à trouver rien que le téléfilm. Et puis, si vous aimez un petit peu ce qui se passe à cette époque, il y a Schulmeister, L'Espion de l'Empereur, une série télé avec Jacques Fabry, où on voyait un Alsacien maître d'école jouer les espions pour le compte de Napoléon, du fait qu'il parlait à la fois l'allemand et donc l'autrichien. Donc c'est... On voit qu'il utilise bien ses talents d'espion des deux côtés. Et donc, c'est une petite série historique un petit peu dans la même veine. Donc, ça peut vous intéresser. Tu connais aussi Chéri Bibi ? J'ai oublié de le noter.
Non.
Chéri Bibi, une série télé sur les bagnards, qui est vraiment différent. Et puis, des films que tu as vus, je pense, c'est Papillon. Donc, la première version avec Steve McQueen et Dustin Hoffman, qui nous parle du bagne de Cayenne. Là, c'était quelques années après, mais bon, on a une idée de ce qu'était le bagne. Et puis, c'est la version avec Charlie Hunnam et justement Malek Rami. C'est ça?
Rami Malek,
qu'on a pu voir dans Queen, le biopic de Queen. Et bien là, il joue le rôle de Degas, le faussaire que jouait Dustin Hoffman dans le premier film. Et il est vraiment excellent. Et comme je disais, c'est vraiment un acteur... Vraiment très bon. Donc là, si vous voyez l'univers du bagne, ça vous donnera une idée de ce que pouvaient être les prisons françaises à une époque. Donc quand on voit maintenant que bon, ça s'est amélioré, quand ils se plaignent des conditions... Heureusement pour eux, ils ont pas connu le bagne. Enfin, heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres, parce que c'est vrai que bon, c'était pas une période sympathique.
Oui, je vous sens chaud pour le coup de cœur.
Le coup de cœur sérivore, ben j'ai choisi Fais-moi peur. Alors ça, c'est peut-être une série que t'as vue, ça, David. Are You Afraid of the Dark? Une série télévisée canadienne en 94 épisodes de 21 minutes, créée par DJ McCauley. Et ça, ça passait sur FR3. Et ça, tu devais être jeune. C'est dans les années 90, donc t'étais vivant. Et tu devais être un petit garçon. Et c'est une série d'anthologie destinée à la jeunesse et une série d'histoires horrifiques et fantastiques indépendantes. Et cette série racontée par des enfants et des adolescents autour d'un feu de camp durant la nuit dans les bois. Une fois par semaine, les membres de cette société de minuit se réunissent et à chaque fois, à tour de rôle, l'un des membres présente une histoire qu'il doit raconter aux autres pour les effrayer. Le narrateur se saisit alors d'une espèce de bourse remplie d'une poudre mystérieuse, en jette une poignée dans le feu. Avant de dire « Soumise à l'approbation de la société de minuit, cette histoire s'intitule » et il lance le truc. Tu n'as pas vu parce que ça c'était vraiment
ça me dit rien.
Une série, c'était plutôt oui, ado-enfant, mais c'était un petit peu comme les contes de la crypte. Et à chaque coup, il y avait des histoires qui étaient bien menées, les scénarios étaient assez bien faits. Eh bien, pour clôturer, je propose d'écouter le générique de la série « Fais-moi peur ». Eh bien, nous voici arrivés à la fin de ce Sérivore spécial Vidoc. Merci David pour ta participation.
De rien, là.
Merci à Chloé pour la technique. Et puis, à bientôt pour un nouveau Sérivore.
Ciao.
Bye bye.
Série, maintenant choisissez votre camp.
Devenir un serial lover
ou un serial eaters.